Ça va mieux, de Jacques Lavergne et de Jean-François Mignard, bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à toutes sur Esprit Occitanie. Alors pour commenter cette actualité, nous sommes en compagnie de gens que vous avez déjà entendus à quelques reprises, mais bon, hein, quand on a des bons, il faut les réinviter.
On ne change pas une équipe qui gagne.
Absolument. Daniel Wetzerlang, professeur émérite de sociologie à l'Université Toulouse Jean Jaurès et chercheur au LIST. CERS, CNRS, je ne sais pas ce que c'est, mais il va nous le dire. Qu'est-ce que c'est, Daniel ?
C'est le Centre d'études et de rationalisation des savoirs.
Oula !
C'est très savant.
Donc c'est savant. Non, compliments, c'est, compliments.
Ouais, c'est des sachants.
Ce sont des sachants. Nous sommes honorés de votre présence, Daniel. Et Pascal Gassiot, de la Fondation Copernic.
Bonjour.
Voilà, ils sont tous là, ils sont venus, ils ont pas mal de dogs. Nous avons aussi autour de nous quelques jeunes stagiaires journalistes de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et nous allons parler de l'Observatoire toulousain des pratiques policières et surtout de son dernier rapport sur les opérations de police et de gendarmerie dans le cadre des oppositions à la construction de cette autoroute A69, dont j'ai déjà eu l'occasion de dire tout le mal que j'en pense et que je redirai tout à l'heure. Et puis, si on a le temps, on va essayer de le prendre, on parlera un peu de la situation assez nébuleuse en Nouvelle-Calédonie, qui, avec la présence du président de la République, risque d'être encore plus nébuleuse. Mais bon, attendons et voyons. Voilà, c'est Ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Citation, vous l'attendiez tous, vous allez la voir. Ouvrez les guillemets, l'homme est un bouffon qui danse sur les précipices. C'est beau, non ? C'est d'actualité, ça, hein ?
C'est joli.
C'est bien.
Est-ce une autocritique ?
Pas du tout. Pas du tout. Bon, je vais vous dire qui c'est, vous savez, pas le trouver, puis on n'a quand même pas trop de temps. C'est Balzac, et c'était dans La peau de chagrin. Je rappelle les dates de naissance et de décès de Balzac, 1799-1850. Mais déjà, il avait vu le problème.
Oui, on peut le dire. Je pense que l'humanité l'avait depuis un moment, ce problème-là.
Oui, mais bon, c'est bien de le rappeler. Alors là, maintenant, on est en plein dedans, hein, on n'est plus dans les travaux pratiques, c'est vraiment l'expansion de la connerie, si vous me passez le terme. Quelques chiffres, tiens. La CPI, vous savez ce que c'est, hein, 25 ans après sa création par le statut de Rome, 70 États refusent toujours de ratifier. La Cour n'est donc pas compétente pour juger de leurs actes. Alors, il y a quelques États quand même qui ne sont pas des moindres. Ça ne vous étonnera pas, les États-Unis, la Chine et la Russie, plus l'Inde, soit à peu près la moitié de la population mondiale, c'est quand même pas rien. Alors en 25 ans, ils ont émis une cinquantaine de mandats d'arrêt, mais comme ils ne disposent pas de forces de police, eh bien, l'application de ces décisions dépend uniquement du bon vouloir des États parties. Résultat, 16 personnes recherchées ne sont toujours pas jugées. Et il y en a une qu'on connaît bien, s'appelle Poutine, qui est visée par un mandat d'arrêt depuis 2023. Poutine sera-t-il jugé un jour par la CPI ? Ouvrirons-nous le champagne ?
On ne le sent pas trop inquiet.
Oui, là, il n'est pas. Apparemment, ses nuits s'écoulent doucement, il ne se réveille pas en sursaut, en criant la CPI.
Non, mais il a davantage crainte sur ses propres services, c'est une vieille histoire chez eux.
Oui. Alors, en 25 ans, ils n'ont prononcé que 10 condamnations. Et tout concerne des pays africains, uniquement des miliciens rebelles. Et puis les chefs d'État incriminés ont tous été finalement acquittés. Donc,
La morale est sauve.
On peut le dire comme ça. Bien, rentrons dans le vif du sujet. La 69 et les pratiques policières que nos invités sur ce plateau ont observées de près. On travaillait avec eux, ils n'étaient pas seuls d'ailleurs, hein, mais ils vont nous expliquer comment ils travaillent, parce que c'est un travail tout à fait scientifique et avec des méthodes. Mais d'abord, bon, la 69, qu'est-ce que c'est ? C'est un vieux projet déjà, c'est bien ce qui pose problème d'ailleurs, d'autoroute entre Castres et Toulouse, dont le trajet est à peu près parallèle à celui de la route nationale 126. On nous dit qu'il est destiné à désenclaver la sous-préfecture tarnaise. Donc on peut le résumer résumer ce désenclavement à deux chiffres simples, c'est-à-dire de 20 à 30 minutes gagnées, et encore, et une vingtaine d'euros pour l'aller-retour, ce qui n'est quand même pas rien. Donc,
ce qui nous met la minute à quelque chose d'assez
oui,
cher.
Oui, oui. Pour se désenclaver, un travailleur castré va donc débourser chaque mois un peu plus d'un quart du SMIC, ce qui est quand même pas mal, hein, comme désenclavement.
Désenclavement du SMIC.
Je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent éditorial de Stéphane Foucard dans Le Monde, où j'ai puisé d'ailleurs ces quelques chiffres. Donc l'autoroute pose aussi quand même quelques problèmes écologique. Hein. La 69, c'est 4 voies sur 53 km. Il va traverser 32 cours d'eau, 59 écoulements secondaires, 76 habitats naturels hébergeant près de 700 espèces végétales, dont 59 sont patrimoniales, et 114 espèces animales présentant un enjeu réglementaire ou de conservation. Plus de 30 bassins vont être nécessaires pour traiter les eaux de ruissellement et la réduction de l'espace disponible pour les crues. On a la vallée du Giroux, on a la Goutte, le Bernazobre, très joli nom que je ne connais pas. Et il va falloir réaliser des décaissements. Donc ça va avoir un impact colossal sur les milieux naturels. La plupart d'ailleurs des gens qui travaillent sur ces questions et des scientifiques ont crié au fou, hein, ce qui n'a pas du tout fait bouger nos politiques locaux qui n'ont strictement rien à cirer. Donc on va avoir 12 rectifications définitives, 9 dérivations provisoires de cours d'eau, mais ça je crois que je vous l'ai à peu près dit, 10 km de fossés détruits, 22 hectares de zones humides détruites, 3,5 km d'alignement d'arbres et plus de 13 hectares de boisements rasés, sans compter la destruction de 75 hectares de milieux naturels ouverts ou semi-ouverts et de 230 hectares de terres agricoles. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Si on détruit en plus les hectares de terres agricoles, où va-t-on ? Donc, on peut s'étonner que l'État ait béni cette opération. Alors, on s'en étonne. Et puis, quand on gratte un peu et qu'on regarde, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait aussi clair que ça. Mediapart l'a fait, d'ailleurs, qui a eu accès au contrat de concession, qui paraît-il était confidentiel, mais enfin bon.
Le secret des affaires.
Voilà, voilà. Alors, le montant des aides publiques, on nous avait dit, sera de 24,6 millions d'euros, mais ce sera plutôt 116,6 millions d'euros, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et la lecture du contrat qu'en a fait Mediapart nous amène à penser que la reprise de contrôle de la concession par la puissance publique serait impossible. Donc on se demande là ce que fait l'État. Est-ce que c'est un État stratège ? Est-ce que c'est un État pillard ? La question reste posée. Et puis quand même, il ne faut pas oublier d'évoquer le groupe Fabre, c'est à Castres, comme nous le savons. Et puis le groupe Fabre, bon, c'est quand même une puissance économique dans la région. Et grâce oui. à M. Fabre, qui a toujours fait les efforts pour maintenir son économie sur place et dans le Tarn, et qui a beaucoup irrigué le Tarn, et tout ce qui ressemblait de près ou de loin d'ailleurs à son industrie, mais il est allé beaucoup plus loin que ça, parce que je crois qu'il a largement distribué de l'argent, donc il faut quand même le rappeler.
Ça se dit,
et donc il n'y a pas de raison de l'ignorer. Par contre, il y a quand même quelques collusions entre des cadres du groupe Fabre, des politiques, et ça c'est extrêmement
des
gênant,
médias.
Et des médias, et puis le gestionnaire d'actifs Ascendi aussi, dont tout ce petit monde est plus ou moins actionnaire de la société concessionnaire A69, qui est contrôlée par un fonds d'investissement qui s'appelle Ardian, et puis l'un des hauts cadres d'Ardian est M. Emmanuel Miquel, hein, pour le citer, l'ancien conseiller économique du président Macron. On pourrait parler d'autre chose aussi là-dessus, parce que l'histoire est quand même assez longue et assez complexe.
On pourra en faire une émission.
Mais on la fera peut-être avec les gens de Mediacité qui ont travaillé là-dessus, qui ont pas mal écrit, hein, on en parle ensemble. Donc on reviendra sur cette question qui n'est pas le sujet du jour, mais en fait il fallait poser le cadre. Donc on est dans quelque chose d'aujourd'hui de complètement aberrant, soutenu par des politiques locaux dont on se demande s'ils travaillent vraiment pour l'intérêt général et pour le nôtre, ou alors ils travaillent je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, tout ça est quand même très très inquiétant. Mais il y a plus inquiétant, c'est que justement les oppositions ont été nombreuses, oppositions de scientifiques, mais oppositions aussi de tout un chacun. Et qu'est-ce que l'État a fait ? L'État a envoyé sa police et sa gendarmerie pour essayer de faire que les travaux puissent continuer à se dérouler normalement. Alors, on va en parler avec nos amis présents dans le studio qui, eux, ont allé voir comment a travaillé cette police et cette gendarmerie qui avait d'ailleurs, on s'en était ému puisqu'il y avait même un représentant de l'ONU qui était quand même venu voir, on a dit des choses, mais tout cela, ils vont nous le rappeler. Peut-être avant de commencer, rappeler ce que c'est que l'Observatoire toulousain des pratiques policières et comment il travaille, qui c'est qui veut le... Qui veut le faire, Daniel Velderlang
Oui. Ouais, allez, Pascal Gassieux, je vais le prendre.
Allez, il le prend, c'est à
je
lui.
Je le prends.
Alors, expliquez-nous tout.
L'Observatoire toulousain des pratiques policières est né de réflexion de militants de la Fondation Copernic, de la Ligue des droits de l'homme, suite à la séquence des manifestations, suite à la mort de Rémi Fraîche à Sivens. Et lors de la loi travail, on avait constaté à Toulouse des déploiements policiers extrêmement importants, un usage disproportionné de la force, ce qu'on a appelé à l'époque une militarisation de l'espace public. Et donc, on avait commencé à cogiter entre nous en disant il y a des choses qui vont pas. Donc, on a décidé de se regrouper et de réfléchir ensemble à la création d'un outil. Il se trouve que la Ligue des droits de l'homme avait une expertise dans le domaine des observatoires. Daniel en dira peut-être un mot tout à l'heure. Parce qu'ils avaient déjà créé des observatoires sur l'accueil, par exemple, des étrangers en préfecture, ensemble, des choses comme ça. Donc, il y avait un savoir-faire. Et puis, il y avait aussi cette idée de, en créant cet observatoire, qui est un truc qu'on est un peu créé de toutes pièces, de travailler de manière rigoureuse. D'où l'intérêt, effectivement, de se rapprocher de Daniel Belzervang, en l'occurrence, et d'un labo de la fac et du CNRS pour mettre au point une méthodologie de travail extrêmement carrée. Parce qu'on se doutait bien que dès lors qu'on allait parler de violence policière, même si on avait pris la précaution de parler de pratiques policières, on allait être sous le feu des critiques en disant ça y est.
Au mieux dans le déni, au pire dans la critique.
Et des pratiques qui peuvent être violentes.
Oui. Et donc on a fait ce travail, tout ça nous a pris un certain temps d'organisation, et puis on a fait notre baptême du feu. En mars, on a déclaré l'observatoire en mars 2017, et puis est arrivé, alors au début, on a compté les camions de policiers, on a regardé, observé, différencié les différents types de policiers sur le terrain, gendarmes et autres, puis est arrivé la séquence des gilets jaunes, hein, c'est vrai, indéniablement, qui a été une bascule, d'abord parce qu'on a vu concrètement ce que ça donnait de manière extrêmement importante, hein, les déploiements policiers, la violence, les armes utilisées, hein, on y reviendra par rapport à la 69.
Il y a certains qui n'ont pas vu, justement, ou qui ne voient plus, d'ailleurs.
Oui, enfin, éborgné, mutilé, enfin, bah, pas. Donc, on l'a déjà largement développé dans nos précédents rapports. On va, se concentrer sur la 69 aujourd'hui. Et puis voilà, donc l'Observatoire existe depuis maintenant 7 ans. Et puis il continue. Il y a eu des moments marquants, bien sûr, les gilets jaunes. Il y a eu des moments marquants aussi l'an dernier, hein, avec notre présence dans un cadre national, avec d'autres observateurs en France, sur la manifestation de Sainte-Soline. Qui était aussi un modèle, hein, dans le genre.
Dont on avait parlé d'ailleurs à ce micro.
Absolument.
Hein, vous étiez venu nous raconter un peu la guerre de Sainte-Soline.
Absolument. Et puis, c'est un 69 très particulier, où là, on va peut-être en parler, c'est une séquence particulière, mais on va y revenir pour l'Observatoire. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire pour cadrer l'Observatoire.
Et sur la méthodologie, peut-être, ouais. Daniel Velderlang.
Ça fait maintenant 12 ans qu'avec la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations, on a voulu créer des observatoires citoyens. Le principe, c'est que des citoyens ou des citoyennes doivent pouvoir observer les services publics et dire si ça va, ça va pas, ça c'est dégueulasse, ça c'est normal, c'est pas normal. Et pour pouvoir observer ça, dès le départ, on a dit, on veut une méthode carrée. Autrement dit, moi, comme chercheur, j'ai élaboré chaque fois des méthodologies scientifiques. Alors, pour l'Observatoire des pratiques policières, au début, on a tâtonné. On a compté combien il y a de policiers et policières, d'où ils venaient, combien d'armes, combien. On a regardé les manifestants pour voir si c'était en adéquation. C'est-à-dire que, comme là, on va en parler, des fois, il y a 30, 40 manifestants et il y a des une heure de grenades qui sont lancées de tous côtés. Donc, ça, pour prouver la disproportion des pratiques policières, il a fallu être rigoureux. La 69, c'est un peu particulier, parce qu'on a l'habitude de travailler en ville. On est urbain, et on s'auto-saisit, et régulièrement, parce qu'il y a des manifestations, on dit on va aller observer. Ou, des fois, des gens nous disent, ça serait bien que vous soyez là, parce que ça risque de mal tourner, etc. Là, la 69, c'est la campagne. c'est la campagne et des gens de la Voix est libre, des gens qui soutiennent l'opposition à la 69, nous ont dit, ben, ça serait bien de venir observer. Puis ils l'ont, on a appris à s'apprivoiser d'un côté et de l'autre. Les pratiques d'observation des policières étaient pas là. On a été, je recherche le chiffre, on a été 18 fois présent. Et au début, c'était venez. On a été voir. On s'est dit, est-ce qu'on est compétent pour observer dans la campagne? Comment ça va se passer? Et en définitive, je crois que l'ensemble de l'Observatoire des pratiques policières s'y est mis et a tourné autour de la santé.
Qu'est-ce qui change tellement de la ville? Qu'est-ce qui aurait pu faire que vous ne soyez pas compétent?
Alors, justement, c'est bien, c'est un des premiers enseignements de notre rapport. On a été 18 fois sur place et on a été dans un milieu très restreint, sur le même. En gros, la SUVA, c'est quelques petits hectares, avec structuré par une ligne, le chemin de la Crémade, qui est le chemin d'accès aussi de la Crémade, et puis une voie ferrée. Et en gros, autour de ça, se sont concentrés pendant des semaines les écureuils grimpés dans les arbres, c'est-à-dire les opposants qui occupaient les arbres, leur soutien au sol, de très nombreuses forces de police et de gendarmerie, et les observateurs. Et on a été un peu dans un mélange pendant un certain temps, quasi physique.
De la promiscuité, quoi.
Une forme de promiscuité, tout à fait. Donc, milieu restreint, peu de monde, en fin de compte. Hein. Beaucoup de policiers et de gendarmes pour, la plupart du temps, sauf quelques initiatives un peu de type manifestation, la plupart du temps, il y avait 30 à 40 soutiens au sol, une dizaine d'écureuils dans les arbres, 2-3 observateurs et... entre 50 et 150 gendarmes et CRF.
Alors tout le monde se parlait, comment alors, ça
oui,
se passait
ouais. Ah oui, alors c'est pour ça que j'ai une anecdote que j'aime bien sortir et j'en profitais. En discutant comme ça avec les gendarmes et les policiers, on s'est aperçu de leur ignorance crasse de ce que c'est que le droit des observateurs, le droit des manifestants, le droit des journalistes, le gendarme et les CRS de base n'y connaît rien.
Mais ils ont assez peu de formation là-dessus, faut dire.
Oui, alors, mais à tel point, avant, qu'on nous a dit, vous n'avez pas le droit de prendre de photos. Par exemple, c'est un commandant de CRS qui m'a dit ça, j'ai dit, un gradé, alors je pense que quel grade il avait, mais tout. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais si, j'ai le droit de prendre des photos, enfin.
Je peux vous poser. C'est le béaba.
Oui, le béaba, je revenais pas, bon, il a fallu un peu discuter. Et puis, ça a été comme ça tout le temps. On s'est aperçu dans les échanges un peu impromptus, imprévus avec eux, qu'ils connaissaient à peu près rien à ce qu'est le droit général. C'est comme si, vous voulez, je le cite souvent, c'est les gendarmes qui sont sur le bord des routes pour contrôler les automobilistes ou les trucs ne connaissaient pas le code de la route. En gros, tout le monde trouverait ça hallucinant en disant, mais ils connaissent même pas le code de la route, tout. Les CRS et les gendarmes mobiles qui sont dans le cœur de métier, c'est la gestion des manifestations dans l'espace public, ne connaissent pas le droit
pourtant,
qui encadre.
Ils vous connaissent. On parlait tout à l'heure de la ville où vous, ce qui est votre terrain habituel de chasse, si je puis dire. Mais en ville, ils savent très bien quels sont vos droits.
Oui, mais alors là-bas, d'abord, on a eu une rotation des effectifs relativement importante. C'est-à-dire que là-bas, on a vu arriver des compagnies de CRS ou des gendarmes qui venaient de toute la France, hein, de Versailles, de la Corrèze.
Ils se mettaient au vert, quoi.
Voilà, donc à chaque fois, on changeait d'interlocuteur. Voilà. Donc, premier enseignement, on a quand même vécu dans un espace clos. Hein. Alors, il y a même un endroit qu'on a appelé le trou. En contrebas et tout. Donc, première chose. Donc, il y a eu ces échanges un peu particuliers qu'on a rarement hein, dans les rues de Toulouse avec gendarmes et policiers. Premier constat. Donc, c'est ignorance. Deuxième constat, bien évidemment, c'est la disproportion des forces en présence qui nous a frappés avec là des moyens qu'ils avaient sur le Tarn, dans ce petit bout d'espace rural français de quelques hectares, sorti la cavalerie lourde et jusqu'à nous mettre en face de nous, observateurs, journalistes, parce que les journalistes, on y reviendra, ont été spécialement maltraités, comme les observateurs, jusqu'à nous mettre en face de nous des blindés, les nouveaux blindés de la gendarmerie, qui sont des monstres, et qui sont équipés de matériel très inquiétant, hein, pour qui s'imaginent, qui viennent vouloir continuer à manifester. Par exemple, ces engins blindés sont dotés d'orgues de Staline, pour les plus anciens, les plus jeunes, ça n'évoque rien, mais enfin, c'est des lanceurs multicoups mis sur le haut du blindé, qui peuvent tirer simultanément, enfin, de manière successive, 30 grenades explosives. Parce que c'est ça qu'ils utilisent, bien évidemment, comme celles qui ont mutilé la Sainte-Soline. Ils peuvent en tirer 30 en quelques secondes, à 200 mètres de distance. Et lorsqu'on a interviewé un jour un major de la gendarmerie qui était à côté de l'engin, on a été le voir, on a dit bonjour, on a lu les articles dans l'Essor de la gendarmerie sur ces nouveaux blindés, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Il était tout content de nous montrer son matériel, ce brave homme. Et il nous a dit, bon, il a expliqué, puis il nous a dit... j'ai parlé des orgues de Staline, il m'a dit « Ah oui, puis c'est une nouvelle intéressante pour nous. Jusqu'à maintenant, ces orgues de Staline, il a repris le terme, peuvent tirer à 200 mètres. » Donc déjà, ça projette des grenades à 200 mètres. Mais on va être équipé de nouveaux lanceurs, ça pourra tirer à 400 mètres. Quatre longueurs de 4 terrains de rugby. Vous imaginez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire 30 grenades explosives qui vont être lancées à 400 mètres de distance au milieu d'une foule de gens qui peuvent être très loin et pas concernés par ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sent la boucherie quand même. Et c'est très inquiétant. Là, c'est le phénomène un peu emblématique qu'on a eu, surtout cette arrivée de ces nouveaux blindés de la gendarmerie qui, au niveau de l'Observatoire des pratiques policières, nous inquiète au plus haut point.
Alors, Daniel, oui, Belgerland.
Je voulais revenir sur le droit. La mauvaise connaissance du droit des citoyens de Réunion, comme ça qu'on appelle ça dans les traités internationaux, parce que chaque observation différente nous... On met un focus différent. On ne s'est jamais préoccupé de ça à Toulouse. On avait dit au moment des gilets jaunes, les bacs et les CDI ne sont pas formés au maintien de l'ordre.
CDI, traduction.
Compagnie départementale d'intervention. Autrement dit, les flics locaux et les bacs ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre. Il faut que ce soit des professionnels du maintien de l'ordre. On ne s'est pas préoccupé de savoir quelles étaient leurs formations sur notre droit de manifester. C'est vraiment en les approchant de plus près sur la 69 qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manque. C'est pas sûr que les flics qui interviennent à Toulouse aient une formation sur le droit de réunion et le droit de manifester. Ça, c'est à vérifier.
Oui, ça resterait à voir. Quoi. Oui.
Disons que si l'agent de base ne l'a pas, au moins que les officiers l'aient. C'est quand même eux qui dirigent la manœuvre.
Oui.
Oui, mais même le enfin, pour les gendarmes et les CRS, c'est quand même, je le redis, leur métier. Ne connaissent pas ce que c'est que le droit et le contexte juridique et légal du droit de manifester et tout, et quand même nous a laissé pantois, je dois reconnaître, je l'avoue sincèrement, je pensais qu'il y avait un niveau de formation élémentaire plus élevé chez ces forces spécialisées du maintien de l'ordre.
Il y a un OPJ qui l'a, parce qu'il a fait un mémoire de
un
master.
Officier de police judiciaire.
Un officier de police judiciaire, les autres, pas évident du tout. Il n'y a pas de formation au droit civique, il n'y a pas de formation à la sociologie des foules dans la formation des policiers et policières.
Alors que si vous allez en Allemagne, ce n'est pas du tout le cas, puisque eux l'ont.
Oui, oui c'est quand même quelque chose de relativement dangereux sur l'évolution des choses sur le terrain. Quoi.
Et alors ça s'est traduit très concrètement par le fait qu'ils se sont par exemple opposés de manière tout à fait permanente à la capacité que pouvaient avoir les journalistes et les observateurs d'accéder aux espaces qui leur permettaient d'observer leurs pratiques par rapport aux écureuils dans les arbres. On savait qu'il y avait donc une douzaine de militants et de militantes qui étaient grimpés en hauteur dans les arbres.
Qu'on appelait les écureuils, je crois que... Oui, il y en a même un qui avait grimpé en face du conseil régional. Absolument. Ici pour regarder Mme Delga, certainement.
Oui, c'était donc des militants principalement autour du Groupement National de Sauvegarde des Arbres, le GNSA, hein, et dont l'animateur est Thomas Brel, hein, qui effectivement qui lui
un personnage
est
un peu médiatique.
Oui, qui est un peu la tête de gondole hein, de ce groupe de militants. Et donc, si vous voulez, il y a eu ce qu'on a appelé, donc, et c'est une des caractéristiques de cette observation-là, parce que là, c'est une entrave quasi permanente à la possibilité de pouvoir observer. On n'a jamais pu, nous, du jour où ils ont décidé d'évacuer les soutiens au sol, cette fameuse ZAD de la crémarbre, qui s'était constitué sous les arbres occupés, on nous a interdit de nous approcher, à tel point d'ailleurs que l'OPP est obligé de travailler avec des jumelles. Ça ne nous était jamais arrivé. En général, en milieu urbain, on s'approche très près. À Sainte-Soline, on s'était approché très près aussi. Là, on avait interdiction absolue de s'approcher. Alors, au titre du fait qu'il y avait soit c'était sur un terrain privé, alors du coup, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas trop, cette histoire de terrain privé. Donc, ils nous ont dit c'est une opération de police judiciaire en cours. Et donc, pendant 4 semaines, il y a eu une opération de police judiciaire non-stop en cours.
D'ailleurs, des instructions qui ont été données par qui ? Parce que le gendarme de base ne réfléchit pas. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Il est là pour ça.
Le préfet.
C'est le préfet.
Le préfet qui est, de toute façon, le représentant de l'État dans le département, c'est très clair. Le préfet Villebois a été en première ligne durant toute cette opération. Et au-dessus du préfet Villebois, qui y a-t-il, d'après vous ?
Et puis, je ne sais pas, peut-être quelqu'un, un petit monsieur dans le ministère.
Voilà, Place Beauvau, c'est ça ?
Oui, ouais, voilà. Place Beauvau, oui. Monsieur Darmanin, bien évidemment. Vous savez que Darmanin avait dit il a monté une cellule anti-ZAD en France, hein, et tout. C'est l'homme qui a inventé quand même la terminologie d'éco-terroriste.
Oui, oui, oui.
Il y a une inventivité très forte autour du terme terrorisme.
Les ordres étaient très clairs. Alors, de temps en temps, on disait c'est le procureur qui a dit ça, de temps c'est le préfet, enfin, eux-mêmes, puisque les compagnies CRS ou de gendarmes changeaient de toute façon.
Je ne pense pas que le procureur ait quelque chose à voir là-dedans.
Peut-être une remarque là-dessus, dans le rapport, on le lit bien quand même, c'est l'opacité des instances et des lieux de décision qui font que tout ça est quand même dans un flou qui est un flou artistique. Alors, dans le cas du préfet, bon, on raisonne par déduction, ça paraît assez évident, mais à aucun moment, enfin, c'est bien pointé dans le rapport, on a une espèce de dilution des responsabilités qui fait qu'on cherche désespérément qui est responsable de quoi. On avait déjà vécu ça à l'époque de la mort de Rémi Fraisse, dont je le rappelle, on n'a jamais, à part le malheureux, enfin, malheureux, le gradé, gendarme gradé, garde mobile qu'il a objectivement tué en jetant la grenade, on n'a jamais trouvé quiconque là-dedans à endosser une responsabilité quelconque.
Différents détails nous laisseraient supposer que le préfet a fait preuve d'autonomie au début de la lutte contre la 69, quand après Sainte-Soline, il s'est arrangé que la manifestation soit pacifique, mais que dans les derniers épisodes, là, pas du tout. C'est directement la place Beauvau qui dirige la répression sur la 69.
Ah ben, c'est d'autant plus vrai qu'on a eu le temps, hein, parce qu'on est 18 fois présent sur site, si vous voulez, pour les observateurs, c'est une séquence très dense pour nous, sur 5 semaines. On a été donc des dizaines d'heures d'observation et on a regardé vraiment tout ce qui se passait dans les détails. On a vu défiler le banc et l'arrière-banc de la gendarmerie française, c'est-à-dire qu'on a eu le droit au général Rodriguez, qui est le patron de la gendarmerie française, d'un général d'armée aussi qui est venu, de nombreux lieutenants-colonels, colonels et autres capitaines.
Oui, c'est un peu l'armée mexicaine aujourd'hui, la gendarmerie.
Il y a des jours, c'était impressionnant. Hein. Nous-mêmes, on était très étonnés. À Toulouse, on est habitué à avoir des officiers de police judiciaire. C'est le signe.
C'était un signe de quoi ?
Ah ben c'est le signe de l'importance qui est donnée à cette... c'est symbolique, la 69.
Quel est le symbole caché derrière ce bout d'autoroute dont tout le monde se demande à quoi il va servir, qui est très cher, qui va détruire la nature, à quoi ça sert ?
Alors, je crois qu'il y a un autre phénomène qu'on avait mal jugé, au départ, parce que parallèlement à l'Observatoire des pratiques policières, on a monté, la Ligue des droits de l'homme, une commission d'enquête pour a posteriori aller voir les gens et avoir des témoignages précis. On a vraiment l'impression que c'est une expérimentation in vivo. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on a fait un millefeuille répressif et jusqu'à aujourd'hui, avoir creusé une tranchée remplie d'eau autour des arbres que sont susceptibles d'occuper les écureuils. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on leur a interdit de manger, on leur a interdit de s'alimenter, de boire, de dormir, on les a menacés en pleine nuit de piquer et de pendre, y compris de viol. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a rajouté une couche répressive. Et on a l'impression que le pouvoir a utilisé la lutte contre la 69 pour expérimenter une méthode.
Un laboratoire.
On avait eu la même chose aussi, Vince, là aussi. Moi, j'avais participé à la commission d'enquête où il se disait, mais c'est un terrain d'expérience, autrement dit, de la militarisation, y compris. C'est pas rien que ce soit quand même des militaires, en l'occurrence. Même s'il y a eu des policiers, mais on expérimente du matériel des hommes. Il n'y a qu'à voir les écarts qu'il y a d'ailleurs entre la réalité, ce à quoi ils sont confrontés, leur capacité à y répondre. On parlait de formation tout à l'heure. Et de situation et de stratégie, d'autant que dans ce qu'on voit bien dans le rapport, c'est que ce sont des formes d'action un petit peu originales, y compris du côté de ce qu'on appelle les activistes aujourd'hui. On aurait dit des militants à une autre époque. C'est pas courant le fait d'aller se réfugier dans des arbres. Et il y a une espèce comme ça de course entre le glaive et le bouclier, qui fait que tout le monde, d'une certaine manière, innove, c'est ça.
Alors, en dehors de l'État, cette autoroute traverse deux départements, je crois, Haute-Garonne et Tarn. et donc une région. Est-ce que les politiques locaux, départementaux et régionaux se sont positionnés? Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'on les a entendus? Est-ce vous avez fait remonter cette information? Quelle a été leur réaction?
Alors nous, on est concentré sur l'observation des pratiques policières.
Pas des pratiques politiques.
Non, mais je précise ça parce que c'est toujours important. Mais
pour autant qu'elles se traduisent en pratiques policières. Voilà,
sauf que nous sommes aussi des citoyens qui réfléchissons. On n'est pas le nez bêtement en disant tout. Donc effectivement, on a regardé et on documente beaucoup le contexte, bien sûr, de ce qu'on observe. C'est désolant ce qu'on a entendu autour de la 69 de la part des élus locaux. De nombre d'élus locaux, pas de tous. Tout le langage qui avait été utilisé par Darmanin après Sainte-Soline, il a été utilisé par les élus locaux, hein, par les députés, etc. Je parle pas de députés qui soutiennent. Il y en a, hein, comme Karen Erodi, député du Tarn, qui est aux côtés des opposants.
Que vous avez vu sur le terrain.
Qu'on a vu sur le terrain et tout. Mais le Terlier, qui est le président de la commission d'enquête, mais aussi d'autres, on a eu le droit à des saillies sur les éco-terroristes, sur il faut les emprisonner, il faut leur tirer dessus, c'est des voyous, un langage complètement hallucinant pour une douzaine de personnes qui étaient grimpées dans des cabanes, dans des arbres, qu'il faut savoir. Et que c'est une disproportion absolue. Et il y a derrière ça une espèce de surenchère verbale qui est initiée par quand même les gens qui dirigent l'État français aujourd'hui, hein, par les élus comme Darmanin et tout, qui font que les élus locaux se disent « Mais puisque M. Darmanin insulte et traite tout opposant comme étant des terroristes potentiels, on va le faire aussi. » Le terme de terroriste, c'est pas un terme neutre quand même. Je veux dire, on le dit dans le rapport. Le terrorisme, c'est quand on déboule au Bataclan à Paris avec des kalachnikovs et qu'on tire dans une foule de gens qui sont venus pour un concert de musique. Le terrorisme, c'est quand on fait exploser une bombe dans un avion ou dans un train, quand on tue de manière, comment dire, indiscriminée des gens
pour produire de la terreur.
Est-ce qu'on est en train de dire qu'il y a de l'irresponsabilité chez les gouvernants et qui peut se transformer en danger?
Ah mais nous, le danger, il est déjà bien présent sur le terrain. En tout cas, nous, dans l'observation des pratiques policières, on est très inquiets parce que, si vous voulez, depuis qu'on a créé l'Observatoire, et la 69 vous le confirme, on voit une espèce de montée en puissance d'une forme d'open bar, on va appeler ça, tiens.
De roue libre.
Par exemple, c'est pas nous qui l'avons filmé, c'est une vidéo de source certaine qui a été filmée par les opposants de La Voix est libre. On voit, et on l'a repris dans notre rapport, qui est rare, hein, on reprend rarement des éléments qui ne sont pas les nôtres, mais là c'est sourcé, c'est clair et tout. On voit un gendarme mobile qui est sur la route, sur le chemin de la Crémarbe. Il y a une trentaine d'opposants qui vaquent à leurs occupations pas très loin des arbres, mais qui sont vraiment des individus lambda. Les soutiens aux opposants et tout, pas une espèce de horde de gens et tout. Et là, le gendarme particulier, il a à ses pieds deux caisses complètes de grenades et pendant une heure, ils vont canarder 30 personnes. Alors, à tel point que les opposants ont compté le nombre de grenades. Hein, on voit, il y a un petit compteur en bas de la vidéo, on voit, ils tirent plus de 110 grenades en moins d'une heure, chaque grenade contenant 7 palets de lacrymogènes pour une petite trentaine de gens présents qui sont là uniquement pour essayer d'amener...
Ce qui fait du palais à manifestants, bah, c'est élevé.
Mais c'est du délire. Et des gradés de la gendarmerie, comment les gens qui dirigent ces gens-là peuvent laisser faire ça? Enfin, le gars, il est open bar. C'est pour ça que j'aime bien ce terme, on le voit, il est content, il grenade en tout ça. À tel point même que les opposants finissent par en rire. On le voit dans la vidéo parce qu'ils disent, mais il est complètement fou, etc. Il tire dans tous les sens et tout. Alors, on peut en sourire comme ça, mais on peut aussi terriblement s'inquiéter. Parce que, je veux dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est armé, le Cougar est une arme de guerre. Je vous rappelle que prendre une grenade lacrymogène en pleine figure, ça peut vous éborgner, ça peut vous... tout et tout. Donc, il y a une vraie inquiétude autour de ça, tout. Autre élément important quand même, c'est on en a parlé des entraves au journalisme, mais ça a été parfaitement bien analysé et décortiqué par le reporter spécial de l'ONU, parce que tu voulais peut-être en parler.
J'allais vous en parler parce que même l'ONU s'est ému et a envoyé un représentant.
Daniel, vous voulez
Oui, Daniel.
Juste avant, sur le traitement médiatique des éco-terroristes, les écureuils et les zadistes nous racontent une scène où, après avoir nettoyé, enfin viré, volé, enterré toutes les affaires des zadistes, amener des bulldozers qui font place nette.
Oui, c'était un campement, il faut dire.
C'était un campement, oui.
Voilà.
Ils laissent volontairement un certain nombre de déchets par terre, des trucs un peu en désordre, et les gendarmes disent, vous voyez comme vous êtes des voyous et des sales. Regardez ce que vous laissez par terre. Alors que c'était vraiment le bulldozer qui l'avait monté de toute pièce, cette scène-là. Il y a eu une mise en scène de l'éco-terrorisme et du fait que les écureuils seraient des voyous.
De l'intoxication et de la manipulation. Ouais. Quand moi je regarde, alors on parlera du rapport, mais on peut se le procurer où d'ailleurs, le rapport ?
Il est téléchargeable sur le site de la Ligue des droits de l'homme, sur le site du CNRS, sur les archives ouvertes du CNRS, sur le site de la Fondation Copernic, enfin voilà.
Le syndicat des avocats de France.
Voilà, vous tapez rapport à 69, obtention des pratiques policières sur Internet, vous allez avoir assez logiquement.
Ça va venir facilement.
Alors c'est vrai, quand on regarde, vous avez fait aussi ce qui est très bien une synthèse. Oui. Il y a quelques photos sur la synthèse. Mmh. On voit un gendarme armé d'un fusil mitrailleur HK416. Oui. Il est quand même pas rien, on se demande ce qu'il fait là. Et puis, on voit ce blindé Sandor que vous évoquiez tout à l'heure. C'est des moyens complètement disproportionnés.
La fin de la phrase, c'est « mais pour faire la guerre à qui ?»
La guerre à qui, oui.
Hein, parce que c'est, là, on est dans...
C'est l'illustration, dans... effectivement, ouais. Le commentaire sous la photo. On parlait tout à l'heure de proportion. C'est Daniel Wetzerlang qui disait que c'était une de vos critères d'observation, la proportion. Là, elle est où la... Il n'y a pas de proportion, là. Il y a des hommes, des militaires, hein, parce que les gendarmes sont des militaires, armés en conséquence, pour faire face à des gens désarmés et a priori pacifiques, puisqu'ils n'auront jamais rien jeté dessus.
Il y a eu quelques jets de pierre, parce que c'était un peu tentant pour certains opposants. Il y a une voie ferrée avec un ballast.
Il y avait
des gros stocks. On peut pas dire, on le dit dans notre rapport, parce qu'on est quand même, on essaye d'être quand même objectif, ça ne veut rien dire, mais on essaye quand même de bien réciter.
De coller au fait, oui.
On colle au fait. Donc on a vu à certaines occasions des jets, quand même indéniablement, des jets de pierres de ballast sur les gendarmes, qui, je vous rappelle, sont équipés de telle manière qu'il faut vraiment y aller à la bombe atomique pour leur faire mal un peu quand même. Hein.
Alors on a été rendu à l'ONU et représentant de l'ONU, pourquoi il est venu, en qualité de quoi, et quelle a été sa réaction devant ce débordement?
C'est une convention internationale de défense de l'environnement qui
La convention d'Aarhus.
Qui a créé ce poste-là d'un commissaire qui s'auto-saisit des demandes des opposants à la transformation de l'environnement et qui se sentent victimes de répression ou de maltraitance. Et donc, suite à le refus d'alimentation des écureuils, suite au débordement de lacrymogènes, suite à la multiplication des forces de police, il est venu à la 69 pour voir et pour interroger directement les écureuils.
Et comment a-t-il été reçu ?
Alors, la première chose d'abord, pour bien le mettre en condition, alors qu'il arrivait, les gendarmes ont provoqué à l'évacuation d'un s'emménagement d'un écureuil. Au moment où il arrive, le représentant spécial de l'ONU, qui sont le bête d'ambiance, ils disent, vous voyez, vous venez, on continue nos petites affaires pendant ce temps-là, etc. Donc il a quand même été venu sur site, il a pu monter dans une nacelle et discuter avec les écureuils, il leur a amené d'ailleurs des médicaments pour un d'entre eux qui a des problèmes de diabète, bon, etc. Il a rencontré et les gendarmes sur site, et les journalistes, les militants en soutien, les observateurs, on a un groupe de 5 observateurs a passé une demi-heure avec lui, etc. Donc il a été rencontré le préfet aussi, il a passé 2 jours dans le Tarn, il a rendu très rapidement une note sur ce qu'il avait observé sur la 69. Et cette note, on peut la télécharger sans aucun problème, etc. Bon, il dit, effectivement, il dénonce d'abord des pratiques qui sont pour lui attentatoires aux droits humains, hein, avec des actes qui, en droit international, sont assimilés à de la torture. Le fait d'affamer des gens, de les empêcher de se ravitailler en eau, hein, priver des gens d'eau, d'accès à l'eau, c'est extrêmement grave. Donc il l'a dénoncé avec le langage diplomatique mais ferme des institutions internationales. Il a dénoncé les entraves à l'observation pour les journalistes comme pour les observateurs. Nous, on a pris ça comme une forme de bénédiction pour une fois où quelqu'un nous reconnaît le fait qu'on a le droit international protège les observateurs. Normalement, les policiers, il faut le savoir, les policiers et gendarmes français devraient nous faciliter le travail. Le droit international fait qu'ils sont là normalement pour nous faciliter le travail d'observation. Quand on lit ça sur les textes internationaux, à l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse, on tombe dans notre chaise. Parce que, je veux dire, depuis qu'on a créé l'Observatoire, on s'est plutôt pris des grenades dans la gueule, des coups de matraque et des choses comme ça de la part des gendarmes, que le fait de nous dire « Allez, venez, on va vous aider à regarder comment nous travaillons, enfin, etc. »
Le microclimat est peu facilitateur.
C'est voilà, ça. Donc tout. Et un petit mot là-dessus, justement, autour du droit international. L'Observatoire toulousain de pratique policière continue son bonhomme de chemin quand même, parce que on passe pas notre temps à être embouclé. Il se trouve que deux des observateurs ont participé à une formation qui a eu lieu à Paris, sous l'égide de l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération en Europe, l'OSCE, il y a un truc très sérieux, hein, qui regroupe 57 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, sur le droit des observateurs. Et ça a été plein d'enseignements pour nous. D'ailleurs, on s'en est servi pour rédiger la fin du rapport, hein, de ce travail qu'on a fait avec et tout. Et on a été formé par une juriste lettonne et par un ancien dirigeant de la police d'Irlande du Nord. Alors, pendant 48 heures, on a travaillé sur comment on observe une manifestation partout, comment eux, ils procèdent en Europe, en fait, etc. On a appris des trucs assez incroyables. Et une première chose qu'on nous a dit, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, l'OSCE, le Bureau international des droits de l'homme de l'OSCE, considère que les deux pays les plus dangereux pour eux en termes de capacité à observer le comportement des polices, c'est la France et la Géorgie. Ils disent, par exemple, c'est les deux seuls pays où, quand on vient observer, on est obligé de venir casqué.
Ce qui est un standard assez peu élevé, la Géorgie.
Tout. Et quand vous entendez un policier d'Irlande du Nord, quand on connaît l'histoire de l'Irlande du Nord, pour ceux qui ont un peu de mémoire, etc., et qui vous raconte comment ils ont réussi en Irlande du Nord à faire passer la police nord-irlandaise, connue pour sa violence, enfin, etc., la fameuse RUC, enfin, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Irlande du Nord, elle a transformé en une police respectueuse des droits de l'homme, et ils nous ont montré des vidéos, ils ont appris et tout, et quand ils nous racontent ça, et qu'en face de ça, ils nous disent, mais nous, quand on voit le maintien de l'ordre en France, on est hallucinés, on est incroyablement étonnés, parce que par exemple, l'utilisation massive des grenades lacrymogènes en France, le fait de noyer dans un gaz qui est un gaz extrêmement dangereux pour la santé, des dizaines de milliers de mètres carrés, de couper des manifestations en deux, d'utiliser des armes de guerre, c'est hallucinant. Et ils dénoncent ça extrêmement fortement. Et on s'est servi de leurs critères d'analyse, parce que tout, et c'est pour ça qu'on parle de on analyse dans notre rapport la nécessité, la proportionnalité et la redevabilité des comportements des policiers et gendarmes sur la 69. Et sur la nécessité, bon, on s'interroge en disant, mais quelle était la nécessité d'envoyer des centaines de policiers et gendarmes pour 15 occupants et 40 soutiens au sol, même s'il y avait quelques radicaux dans le circuit. Sur la proportionnalité, n'en parlons pas, c'est absolument du délire quand on va les blinder, enfin, on en vient d'en parler. Et sur la redevabilité, chose très intéressante, hein, c'est celle de dire à qui ils rendent des comptes, ces gens-là, en fin de compte. Normalement, c'est un service public, la police et la gendarmerie en France, etc. Donc, à qui rendent-ils des comptes ? À personne. Et quand ils doivent rendre des comptes de temps en temps parce qu'ils sont saisis, ils rendent des comptes à quelque chose qui s'appelle l'IGPN pour la police et l'IGGN pour la gendarmerie, que l'ensemble des observateurs un peu sérieux de ce que c'est que la police française appellent des lessiveuses. Hein, en gros, globalement, on y rentre et on est blanchi en sortant. Etc. Donc, si vous voulez, fort intéressant, parce que on se rend compte que la problématique du maintien de l'ordre en France effraie même les gens qui s'occupent des droits de l'homme au niveau international.
Oui. Daniel Wetterland.
Dans le rapport du gars de l'ONU, de M. Force, il y a deux choses. Il dit nécessité, alors que toutes les voies, les recours juridiques ne sont pas encore tranchés. Est-ce que c'est vraiment légal ce qui se passe ? On sait depuis que c'est illégal. C'est-à-dire que la police a protégé des actions illégales d'abattage d'arbres, alors que normalement, les travaux n'auraient pas dû avoir lieu. Deuxièmement, il nous dit, la privation de nourriture et de boissons, ça, c'est contre une convention internationale. La privation de sommeil, c'est encore une autre convention qui l'interdit. C'est-à-dire qu'on a une multiplication d'abus de pouvoir et, ou le, des faits où la France ne respecte pas ses engagements internationaux. Donc le rapport de force, il est sorti, le rapport définitif il y a deux jours, il est très fort pour ça. Force, fort.
Alors, ce qui est quand même bon, c'est ce que vous nous dites est extrêmement inquiétant. La deuxième chose, moi, qui m'inquiète, c'est l'attitude des politiques locaux qui, finalement, ont été en soutien ou inexistants. Il y en a quand même un certain nombre qui se parfument d'une étiquette de gauche. Mmh. On ne les a pas beaucoup entendus. Monsieur Glucksmann, qui dirige la liste de gauche, c'est lui très nettement positionné contre la 69. Hein. Il y a une interview dans Reporter qui est très claire là-dessus. Donc bon, voilà, il faut le signaler parce que c'est à peu près un des seuls qui ait dit très nettement et qui a eu le courage de prendre position. Les autres, manifestement, ont béni ce qui se passait, ce qui est aussi très inquiétant. Je crois qu'il faudra s'en souvenir le jour où on ira dans ces écoles devant une urne. Mmh. Il faudra que la mémoire soit là. Mmh. Donc, je rappelle le rapport que l'on peut retrouver sur, sur les sites de la Ligue des droits de l'homme, du syndicat des avocats de France, de la Fondation Copernic. Donc, à lire, parce que c'est quasiment de l'instruction civique, là. Hein. On est à peu près à ce niveau-là. La synthèse aussi, qui est extrêmement claire. Donc, je vous renvoie vers ça. Et il nous reste quelques minutes. Alors, je sais que vous n'allez pas vous payer le billet d'avion pour aller observer ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Ça et mérite... Ce serait peut-être pas inintéressant. Ouais. Mais Jean-François, qu'est-ce qu'on dit sur la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ? Situation extrêmement complexe, extrêmement floue. Il y a une chose qu'on a bien compris, c'est que le pouvoir politique a complètement laissé tomber l'affaire, était totalement dépassé aujourd'hui et ne comprend pas les problématiques calédoniennes. Ça, c'est très clair. Ne comprend pas aussi comment fonctionnent ces gens, qui ne fonctionnent pas du tout comme nous.
Oui.
Et partant de là, on peut aussi être très inquiet.
Ah, bah oui, je veux dire, moi, les personnes que je peux connaître en Nouvelle-Calédonie, territoire dans lequel j'ai des liens, effectivement, avec des personnes, ce week-end, j'étais avec Gérard Sarda, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme de Calédonie, puisqu'on était en congrès à Bordeaux, c'est le congrès national de la LDH. Qui est quelqu'un que je connais bien, avec qui on a pu discuter, et qui est lui-même très inquiet, parce que là où, j'ai envie de dire là aussi, le président de la République et ses ministres jouent la partition de l'incompétence et de la répression et de l'autorité. On a l'impression que... Alors, et c'est quelque chose qui est catastrophique. D'une part, ils ne connaissent pas le dossier, de l'aveu de tout le monde, y compris des dirigeants loyalistes. Hein, là-bas, les gens sont extrêmement inquiets de la venue aujourd'hui, hein, au moment où nous parlons. Le président de la République est venu faire une visite éclair pour en tenant des discours qui sont des discours, de mon point de vue, incendiaires. Nous ne reviendrons pas en arrière, autrement dit, ce qui a causé l'explosion en Nouvelle-Calédonie. Il est en train de remettre un peu de kérosène sur le brasier.
C'est quand même assez méprisant. C'est un problème énorme. Il y va passer une journée. Il pense que sur la magie de son verbe,
on a l'impression qu'il va guérir les écrouelles indépendantistes.
Cette présomption de ce garçon est assez hallucinante.
Alors que même au niveau régional, c'est-à-dire les pays environnants, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tout ce qui constitue la Mélanésie est en train de dire attention à ce qui est en train de se passer. C'est pas comme ça que ça marche, on s'y prend autrement. Que le contexte dans lequel le regard porté sur la Nouvelle-Calédonie et la politique française en Nouvelle-Calédonie, on ne le sait pas en écoutant les chaînes nationales quand elles fonctionnent, de services publics au moins, mais c'est un regard qui est un regard assez critique sur une politique néo-colonialiste en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est on a lieu d'être inquiet effectivement, et les gens là-bas le sont parce que rien n'est réglé. Et que le troisième référendum, alors sans rentrer dans le détail, est quelque chose sur lequel il faudra revenir, au risque autrement de mettre le feu partout. Y compris les indépendantistes aujourd'hui qui sont sur le terrain, sur les barrages, ne sont plus les mêmes que ceux de 88 ou de 98. Et donc, la situation est encore plus dangereuse. Voilà. Tout le monde appelle au calme. On a l'impression que celui qui est en train de mettre le feu à la maison est un président de la République, imbu de lui-même, accompagné de gens qui sont incompétents. Même le président du Sénat, même l'ancien Premier ministre qui s'était emparé du dossier.
Édouard Philippe, voilà, oui, qui connaissait le dossier.
Bien sûr, de la manière... Même les autorités de la société civile, ce qui est en Nouvelle-Calédonie, est quelque chose d'extrêmement important. La Fédération protestante, par exemple, qui a joué un énorme rôle dans la paix civile en Nouvelle-Calédonie, la maçonnerie, qui est très présente aussi à Nouméa, est en train de dire « attention, c'est pas comme ça qu'on fait ». Le président de la République est en train de nous mettre le feu. Il y a 6 morts. On risque fort d'en connaître davantage, sans que c'est avancé d'un millimètre. C'est assez à désespérer.
Bon, on suivra ça de près. On est des observateurs très très lointains, mais enfin, on essayera.
Oui, alors si j'ai bien compris, l'Observatoire des pratiques policières se posait la question d'aller là-bas quand
oui,
même.
C'est une question qu'on s'est posée. Au fur et à mesure, on s'est internationalisé, l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse. Le modèle s'est diffusé un peu partout en France. Et en plus, on a réfléchi avec d'autres observateurs et observatrices des droits humains. Et c'est vrai que, logiquement, il faut se poser la question d'aller en Nouvelle-Calédonie. L'aéroport est fermé. Donc actuellement, ça ne sert à rien. Et en plus, mais il va falloir creuser la participation des observatoires à ce type de conflit qui concerne la France et dans lequel la police française intervient en notre nom. Voilà.
Bien, l'heure a sonné de nos rubriques de fin d'émission. Commençons par les brèves. Donc je vais ouvrir cette rubrique. Alors moi, en bref, je voudrais rappeler ce qui se passe en Tunisie. On l'a vu, hein. Les forces de sécurité tunisiennes ont pris dernièrement d'assaut la maison de l'avocat à Tunis et ils ont arrêté Maître Damani alors qu'elle était interviewée en direct sur France 24, ce qui nous a permis d'avoir quelques images. Elle a été embarquée, c'est pas un bout de feu, elle avait eu quelques propos moqueurs un peu à la télévision.
Oui, voilà, un peu caustique.
Un peu caustique. Alors nous, on serait déjà normalement embastillés depuis une heure avec tout ce qu'on dit. C'est quand même assez inquiétant. Deux autres chroniqueurs radio et télé ont été également dans la foulée arrêtés. Je ne sais pas où on va, mais depuis un an et demi, il y a plus de 60 personnes, des journalistes, des avocats, des opposants, des juges opposants à l'homme qui se croit providentiel, c'est-à-dire le président aujourd'hui, Kais Saied, qui est curieusement en plus un juriste, un universitaire, donc ce n'est pas forcément de lui qu'on aurait pu attendre ce genre de choses. Eh bien voilà, où va-t-on ? Un autocrate de plus, un danger de plus.
Oui, c'est vrai. Belle réaction du barreau de Toulouse cette semaine qui a fait une manifestation devant le consulat de Tunisie et qui visiblement continue à se mobiliser en soutien de leurs confrères locaux. Alors là, ma brève à moi, elle concerne l'Europe, c'est d'actualité. Quelque chose qui est passé quasiment inaperçu en dehors de la presse spécialisée, hein, c'est que le Conseil de l'Union européenne viennent de finaliser le règlement sur l'intelligence artificielle, l'IA Act, pour faire riche, hein, le 21 mai. La parution est imminente dans le journal officiel. C'est un texte extrêmement inquiétant, initialement qu'on imaginait comme protecteur au regard de l'intelligence artificielle, dont on mesure quand même tous les jours les limites que ça peut avoir, voire les dangers concernant, entre autres, les libertés publiques. Hein, initialement, c'était là pour nous protéger des effets de l'intelligence artificielle. Et en fait, on a un texte qui est plutôt là pour rassurer le secteur, qui est le secteur économique, qui est régi qui régit l'intelligence artificielle. En gros, les limitations de l'intelligence artificielle sont renvoyées à une autorégulation hypothétique de l'industrie elle-même ou des compagnies qui vont le développer. Hein, donc on peut s'attendre à une prolifération. Hein, c'est les gens eux-mêmes qui sont censés poser les limites des dangers qu'ils produisent, hein, on connaît ça. Et on a lieu de s'inquiéter concernant aussi toutes les formes d'intelligence artificielle policière qui sont de fait permises par le jeu de dérogations multiples et notamment liée à la transparence. Autrement dit, on continuera à nous surveiller et à nous policer encore plus avec de moins en moins de transparence. Tout ça dans un silence quasi absolu. Il s'y joue l'avenir quand même, là.
Messieurs, vous, quelque chose, Pascal Gassiodon, Daniel Vézeran?
Oui, dire que l'Observatoire de l'habitat indigne, qui avait observé l'hébergement d'urgence dans les hôtels du 115, on a fait un rapport, toujours disponible sur le site de la Ligue des droits de l'homme et du CNRS, les archives ouvertes, et en même temps une expo photo qui va se passer au Château d'Eau la semaine prochaine, dans le musée de l'affiche, parce que le Château d'Eau est fermé pour travaux, et le vernissage c'est mardi prochain à 18h. Tout le monde est invité, bien sûr.
Le 28 mai.
C'est noté, Pascal Gassio.
Je vais rester un petit peu dans la thématique de l'émission, juste pour rappeler deux, trois choses quand même. C'est que ce que nous avons mesuré à Saïx, sur la 69, risque de se reproduire dans les semaines et les mois qui viennent.
Vous pensez peut-être à une certaine ligne de chemin de fer?
Absolument. Alors, on peut penser d'abord à ce qui se passe avec la bataille contre les gravières dans l'Ariège. Ça, ça mériterait presque une émission. Moi, à votre place, c'est extraordinairement emblématique ce qui se passe dans l'Ariège autour des gravières. Et deuxièmement, bien évidemment, par le projet de ligne LGV Toulouse-Bordeaux, qui est aussi aberrante que la 69.
On a fait une émission là-dessus,
Il va y avoir là aussi des problématiques. Et en ce sens-là, je pense que véritablement, ce qui s'est passé à Seix est vraiment un laboratoire. Je dirais presque plus encore que Sainte-Soline, qui était une manifestation d'ampleur avec 30 000 manifestants, enfin, etc., 3 000 policiers. Par contre, la militarisation, comme ça, de petits bouts de l'espace du territoire avec une ou deux compagnies de gendarmes et des CRS et puis des moyens disproportionnés, ça risque de faire. Ça va faire école.
Cette ligne qui est aussi un projet extrêmement daté, qui est très ancien, peut-être à l'époque avait quelques vertus.
Raison d'être,
mais maintenant, c'est complètement dépassé. La société évolue très vite et tout ça est totalement aberrant. Et on a toujours les mêmes politiques. On a vu M. Vincini s'en féliciter. On a vu Mme Delga s'en féliciter. C'est toujours les mêmes qu'on retrouve au même endroit.
Ce qui est un peu gênant, c'est que lorsqu'on a présenté notre rapport à Castres l'autre jour, dans la salle, il y avait 100 personnes, lorsqu'on a présenté le rapport sur la 69. Les gens qui étaient dans la salle, ce n'était pas une horde de gauchistes ou de black bloc et tout. C'était les gens du coin, ceux qui s'opposent. C'était des quinquas, des exagénaires, enfin des gens vraiment, on est d'accord, sur l'analyse de la population qui était présente là. Et ce sont ces gens-là qui ont été victimes. Donc l'appel que nous, on a lancé au niveau de l'Observatoire, ça nous arrive quand même de faire des propositions, l'appel qu'on a lancé à la fin, on a dit, mais observez la police, observez et vous défendre nos libertés, c'est l'affaire de tous. C'est pas uniquement l'affaire de l'Observatoire des pratiques policières qui deviendrait une espèce d'organisme para-officiel. Aux citoyens aussi, eux-mêmes, de s'organiser, on est là pour ça, de créer partout où ils le peuvent, des structures qui permettent d'aller observer, surtout restituer, discuter, et éduquer les citoyens à la liberté et au contexte dans lequel on doit pouvoir manifester en France.
Pas de chèque en blanc aux politiques, à l'administration, c'est
une
bien
connu. Une pensée pour ce monsieur, père de famille, plus de 50 ans, dont les policiers sont venus à 6h du matin l'arrêter et qui est reparti de garde à vue avec 3 fractures du crâne.
Et le genou bousillé.
Alors que l'Observatoire des pratiques policières était là au moment de l'action qui lui est reprochée, on ne peut pas vraiment dire sur la violence énorme que les manifestants aient mis sur la police.
Ah mais le policier, le gendarme a soi-disant eu 45 jours d'ITT pour qu'il connaisse ce que ça veut dire d'interruption temporaire de travail. C'est énorme, je veux dire.
C'est colossal, il faut quasiment être passé sous un camion, quoi.
Par exemple, moi, en tant qu'observateur de côte fracturée par les policiers, un jour d'ITT. D'accord. Donc là, 45 jours d'ITT pour le gendarme, c'est hallucinant. Et les vidéos qu'a pris ce jour-là, on a une vidéo de 16 minutes qui prend toute la scène et tout, montre qu'on se demande d'où vient cet arrêt, ces 45 jours d'ITT et tout. Ça va être démonté, à mon avis, sans aucun problème pendant un procès, ça.
Eh bien, nous suivrons le procès. Ça va mieux, Jean-François ?
Bah oui, ça va mieux. Alors, ça va mieux avec l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, bientôt la Slovénie,
qui viennent de reconnaître l'État palestinien. C'est dans cette situation épouvantable, c'est une petite lueur d'espoir. Voilà, il se passe peut-être un petit peu de choses, y compris avec le tribunal pénal international.
Voilà, c'était un de mes ça va mieux, où je disais qu'effectivement, ce mandat d'arrêt, même si j'ai dit en démarrant cette émission que la CPI avait ses limites, mais pour autant, elle a sa raison d'être et il faut écouter ce qu'elle dit. Et soulignons quand même que la France, ça a été écrit dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères dans la nuit du lundi 20 au mardi 21, la France soutient la Cour pénale internationale, son indépendance et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. Bon, c'est plutôt agréable à entendre.
Il ne reste plus qu'à reconnaître l'État palestinien.
Voilà ce qui serait l'État. Bon, et puis dans les « ça va mieux », bon, on peut le dire, il y a une ordure de mois en Iran. Enfin, il en pousse tellement par ailleurs, l'hydre se reconstitue en permanence. Un conseil culturel. Moi, tiens, j'en ai un. C'est une émission à suivre. Arme, l'héritage toxique de Martin Boudot, Mathilde Cuzin et Manon de Couette. Ce sera le 27 mai. Donc, on peut encore la voir à 21h05 dans Vert d'Orage sur France 5. Il faut suivre Vert d'Orage. Toujours, tu as eu très beau boulot, très intéressant. Et on va vous expliquer comment toutes ces munitions, notamment celles qu'on avait immergées dans le lac de Gérardmer, on a immergé des choses également dans nos rivages de la mer, du côté de la Marne aussi. On a enfoui des munitions. Et bien, toutes ces munitions qui ont été enfouies se rappellent à notre bon souvenir et constituent aujourd'hui des brûlots dont il va falloir se méfier, qu'il va falloir peut-être éradiquer aussi, mais le film est extrêmement intéressant, donc je vous le rappelle, le 27 mai à 21h05, Vert d'Orage sur France 5, ça s'appelle Armes, l'héritage toxique.
Le conseil culturel de mon côté sera très bref, prenez patience, aujourd'hui il y a une grève totale de Radio France, demain aussi. Il y a un enjeu assez fort au niveau culturel concernant effectivement la radio, le service public de radio, dans lequel il y a une partie de la transmission ou de l'innovation culturelle. Prenez patience et soyez solidaires.
Absolument, je souscris totalement. Messieurs, merci. Je rappelle le rapport sur les opérations de police et de gendarmerie dans le cadre des oppositions à la construction de l'autoroute A69. C'est son titre, c'est le rapport de l'Observatoire toulousain des pratiques policières. Daniel Wetterlang, Monsieur Gassiot, merci. Je n'ai pas écrabouillé son nom cette fois-ci. Je m'étais préparé, j'avais travaillé. Pascal
c'est ça l'entraînement.
Merci à Léo Touroult qui était aux manettes aujourd'hui.
Merci Jacques.
Voilà, on s'auto-congratule.
Merci Jean. Merci pour l'accueil.
Vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez. Merci Léo donc, qui est aux manettes. Et puis cette émission, bien sûr, vous pourrez en retrouver le podcast sur le site avec tous les autres podcasts. Et à très bientôt, Jean-François, pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée, belle soirée. À toutes et à tous.